Bonjour, mon prénom est Pierre A, je suis outre-majeur compulsif. Ça fait 22 ans que je suis dans le mouvement. Et même si je souffre encore d'obésité morbide, le mouvement m'a sauvé la vie. Parce que avant de connaître le mouvement, je prenais 20-25 livres par année. Et là, ça me maintient. Ça fait un maintien de poids ou souvent, effectivement, des pertes de poids, des légères pertes de poids, mais pour moi, c'est un grand soulagement. Mais le mouvement m'a apporté aussi, on dit qu'on est basé sur les 12 étapes et les 12 traditions. Et les 12 concepts, mais on va parler plus des 12 étapes et des 12 traditions. Pour moi, les 12 étapes, c'est moi-même, une introspection de moi-même et ma relation avec une puissance supérieure, un Dieu tel que je le conçois. Non religieux, mais d'une façon spirituelle. Et les traditions, on dit que ça s'applique dans les groupes. Mais la définition d'un groupe, c'est quand on est deux et plus. On dit toujours quand on est deux personnes, on forme un groupe. Fait que ça veut dire que ça s'applique dans toutes mes relations avec les autres. Et ça m'a pris un bon petit bout de temps avant de comprendre ça. Parce que là, on commence au début du mouvement, tout ça, j'étais plus dans la notion de l'impuissance, puis de reconnaître l'importance d'un Dieu tel qu'on le conçoit. Mais à la longue, plus j'avançais dans les traditions, plus je regardais ce que s'appliquait, plus je me disais, « Hey, c'est des choses qu'il faut que j'applique dans ma vie. » Puis il y a 10 ans, 15 ans, on n'en parlait pas beaucoup des traditions dans notre quotidien. Mais depuis plusieurs années, on en parle assez souvent. Fait que je vais essayer de dresser un portrait de moi, comment j'essaie d'appliquer ces traditions-là dans mon quotidien. Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu. Le rétablissement personnel dépend de l'unité des OA. C'est facile à dire, ça, le bien-être commun d'une relation. Mais moi, je me suis dit, OK, c'est quoi le bien-être commun? Est-ce que je tiens à telle relation, que ce soit avec mon couple ou avec ma fille? Par exemple, avec le couple, c'est un peu plus difficile. Souvent, c'est un peu plus, pas touché, je dirais, mais c'est plus explosif. D'un premier temps, pour moi, c'était, bon, un compromis. Le bien-être commun, c'était, on va faire égal compromis. Donc, là, une fois, on va te donner raison, on va faire ce que tu veux. Une autre fois, ça va sera mon tour. Puis là, mais je me suis mis à calculer le nombre de fois, puis là, je te perdais. Fait que ça ne marchait pas, c'était pas gagnant-gagnant, cette affaire-là, puis tout ça, t'sais. Pour réaliser, finalement, que c'est pas ça, le bien-être commun, pour moi. C'est vraiment d'arriver. Mon chum, qui n'a pas de mouvement, il dit souvent, bien, à tout problème, il y a des solutions. T'sais? Puis souvent, ce n'est pas ma solution qui prime, puis ce n'est pas sa solution qui prime. C'est une troisième solution, où on arrive vraiment à un point commun, où on dit, OK, je suis d'accord, j'adhère à ça, puis je ne me sens pas du tout perdant. Je ne me sens pas que je fais un compromis de quelque chose. On a trouvé quelque chose d'autre qui nous convienne parfaitement à tous les deux. C'est facile à dire comme ça, mais quand on applique ça dans le quotidien, c'est toujours pas si évident de le faire jour après jour, semaine après semaine. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple avec des amis. J'ai des amis avec qui je suis très bien. Notre relation n'est pas du tout conflictuelle. Elle est revitalisante, je dirais, parce qu'il y a un bout de temps que j'ai passé dans ma vie. À un moment donné, je me suis séparé. Et puis là, effectivement, là, ça donne que la majorité de mes amis, c'est des amis de couple. Puis ils ont tous été vers ma femme plutôt que vers moi. Fait que je me suis ramassé en disant, bien là, je fais le ménage. T'sais? Et là, j'ai réalisé que en me séparant, bien, je devais faire un ménage dans mes relations. Et là, je me suis dit, je n'aurai que des relations vitalisantes. Mais à partir du moment où tu as des relations vitalisantes avec quelqu'un, puis tu t'entends bien, puis à chaque fois que tu te parles au téléphone, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, puis c'est facile comme tout. Qu'à chaque fois que tu te rencontres pour manger ou pour prendre un café, tout ça, je ne prends pas de café, mais en général, chaque fois qu'on a des rencontres, c'est fort agréable. Puis tu ressors de là au bout de 2 heures, tu te dis « Wow, quelle belle rencontre! » Bien, j'étais confronté à un moment donné à une personne qui n'appelait pas. Elle n'appelait jamais. C'est toujours moi qui appelais. Puis là, je me suis dit, bon, là, ça suffit, là. C'est toujours moi qui appelle. Puis là, j'ai dit, ben oui, mais toi, t'appelles pas. Tu devrais appeler, tu devrais faire ta part. Oui, oui, je devrais faire ma part, tout ça. Mais réaliser que c'est pas dans son... dans sa personnalité, elle est pas appeleuse, cette personne-là, ou ce gars-là, ou cette femme-là, elle est pas appeleuse. Que je lui demande d'aller au-delà, c'est un effort réel pour elle. Puis je me suis dit, qu'est-ce que ça fait que moi, c'est toujours moi qui appelle, puis une fois de temps en temps, elle me fait une surprise, puis elle m'appelle, t'sais? Parce que la relation, j'y tiens. T'sais? Donc, c'est vraiment cette notion-là de dire, moi, ça m'apporte, je tiens à protéger cette relation-là, puis l'équité, ça ne se mesure pas en disant, toi, t'appelles, moi, j'appelle pas, t'sais? Ou vice-versa. Mais c'est ça, parce que je me disais, non, non, ça doit être qu'elle ne tient pas à moi. Bien, voyons donc qu'elle ne tient pas à moi. Non, à chaque fois que je l'appelle, elle est heureuse de me parler, puis tout ça, puis effectivement, c'est comme si on s'était quitté hier, puis ça fait peut-être 2 semaines ou 3 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Hein. Donc, c'est comme, pour moi, le bien-être commun, c'est ça. C'est de dire, je suis bien, je veux privilégier cette relation-là, puis il faut qu'il y ait quelqu'un tantôt qui disait... miser sur les similitudes plutôt que miser sur les différences. Ça là, vous n'avez pas l'idée comment ça m'a amené dans ma vie, des choses. Ça m'a permis. Un, pour commencer, moi, je déteste la chicane. Moi, j'ai été élevé par un père autoritaire, puis sévère, qui a été remplacé, parce qu'il est mort, mon père, j'avais 9 ans, il a été remplacé par un beau-père alcoolique et violent, où, lui, c'était l'autorité suprême, l'autorité ultime. T'sais? Fait que vous comprenez que les conflits et les chicanes, t'sais, n'aiment pas ça. T'sais? Fait que ma première démarche dans ma vie, moi, c'était de tout faire me faire aimer de l'autre. Donc, me faire aimer de l'autre, c'est pas apprendre à dire non. C'est faire quelque chose, mais de reculons, t'sais? Puis là, si l'autre n'est pas assez conscient de tous les efforts que tu as faits, puis te remercier en immense gratitude, bien là, ça ne marche pas non plus. Parce que tu dis, ça n'a pas de bon sens, j'ai fait ça, puis ça m'a demandé X degrés d'effort, puis il n'est pas plus reconnaissant que ça, tout ça. Ça ne marche pas. Hein? Plutôt que simplement me respecter, hein? Puis dire oui. OK? Je comprends ce que tu me demandes, ça, mais je ne suis pas capable de le faire. Hein? Parce que ça ne me tente pas de faire ça, parce que je ne suis pas à l'aise de faire ça. T'sais? Ou parce que, effectivement, j'ai telle priorité dans ma vie, puis je ne suis pas là. Ça va bien quand on dit, ah, oh, on va dire oui, ça va lui faire plaisir. Mais quand ça fait 19 fois que je dis oui pour lui faire plaisir, ça me fait pas mal moins plaisir. Là. Puis ce que ça fait, ça... bien, ça fait que je suis pas dans le bien-être commun, puis là, je commence à faire du ressentiment, puis je commence à faire de l'apitoiement, puis pauvre moi, que je suis donc, tu sais, minable, puis tout ça, puis que je sais pas, puis qu'est-ce que je devrais faire, me faire aimer, puis ça. C'est toute la différence, t'sais. Tenir à une relation, c'est investir. Je dis souvent, moi, je tiens beaucoup, j'ai beaucoup de... très bonne relation d'amitié parce que je les ai entretenues. Et ça, c'est dans le respect. Dans les traditions, on parle beaucoup de respect. Respect des idées différentes, respect des autres. Je trouve ça important que moi, je me respecte. Puis, moi, j'ai été... comme une conférencière parlait tantôt, moi, j'étais dit, si j'ai dit que je vais le faire, je vais le faire. Il est hors de question que je ne respecte pas mon engagement. Bien, moi, dans le mouvement des étapes, et surtout des traditions, ça m'a amené à dire, je ne me suis pas respecté. J'ai le droit à l'erreur. Puis le droit à l'erreur, ce n'est pas après avoir l'avoir fait, puis avoir pris 6 mois dans cette tâche-là, de dire, c'est de le dire rapidement, aussitôt je m'en aperçois. C'est de dire, je m'excuse, je t'ai dit oui, mais après réflexion, puis on dit que la nuit porte conseil, j'ai fait une erreur. Je ne suis pas à l'aise de faire ça. T'sais? Puis, si tu as d'autres occasions, invite-moi ou propose-moi quelque chose d'autre, mais pour le moment, je ne peux pas. Donc, je suis capable, grâce aux traditions, de revenir sur ma décision. Je suis capable de dire, je me désengage. Pas j'ai une activité, je me suis fait un mandat à midi. Ça commence à midi, puis je me désengage à midi moins 5. On n'est pas là, là. T'sais. Mais on est dit, OK, ça fait une journée ou deux que j'ai dit oui, puis là, je réalise que ce n'est pas adéquat. J'ai dit oui encore dans ma pulsion de plaire à l'autre, dans ma pulsion de dire, ah, elle va être déçue si je dis non. Ah, pauvre elle, elle cherche quelqu'un, puis elle ne l'a pas trouvé. T'sais, t'sais, t'sais. Je vais dire oui. T'sais. Mais non, c'est comme. C'était pas le bon motif pour dire oui. J'ai appris ça dans le sens de vraiment de le respect pour moi, ça va là. Ça va aussi dans le respect de l'autre. On a dit des différences ou des miser sur les similitudes plutôt que les différences. Accepter que l'autre soit différent. J'ai entendu souvent dans disant chacun a son plan alimentaire, t'sais? Mais chacun aussi a ses propres personnalités. T'sais? Depuis que j'applique les étapes et les traditions dans ma vie, je peux être en relation avec plein de mondes différents. T'sais? Puis des gens de mon entourage, quand je fais rencontrer des amis ou des choses de même, ils me disent, comment tu fais pour être avec cette personne-là? Elle est tellement différente de toi. Ben oui, mais c'est ça la richesse. C'est ça la richesse d'être différente. Plutôt de dire, ah, oh, elle n'est pas pareille, tu sais, je ne veux rien savoir d'elle, c'est au contraire, elle va t'apporter quelque chose. Ça, j'apprends ça des traditions. C'est les traditions qui m'ont amené à ça en disant, regarde, non, ça, c'est ça, ah oui, ah, c'est un autre point de vue que je n'avais pas pensé. Pour le bénéfice de notre groupe, sa deuxième tradition, il n'existe qu'une seule autorité ultime, un Dieu d'amour tel qu'il peut se manifester dans notre conscience de groupe. Nos chefs ne sont que des serviteurs de confiance et ne gouvernent pas. Une seule autorité ultime. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai été souvent la seule autorité ultime dans mes relations. C'est moi qui avais raison. T'sais? Puis je t'assure, ou bien c'est pas moi qui avais raison, mais je sais que c'est mon besoin, puis Dieu sait que c'est mon besoin, puis moi, j'ai été longtemps à pas satisfaire mes besoins, là, me satisfaire coûte que coûte. Bien, laissez-moi vous dire que ça fait pas des relations fortes. Parce que je suis dans le conflit, je suis dans la controverse, tout ça, t'sais. Puis je suis pas dans l'écoute de l'autre. C'est. Pour moi, c'est aussi laisser à ma puissance supérieure, un Dieu tel que je le conçois, de dire guide-moi. Guide-moi comment est-ce qu'on peut arriver à régler ce différend-là. Guide-moi à ce que si la solution n'est pas si évidente, si le bien-être commun n'est pas si évident, guide-moi qu'est-ce que je dois faire. T'sais. Et petit à petit, s'installent des choses. T'sais. Moi, j'ai une amie là. Elle était fine, 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 ce madame-là. C'était vraiment, là. Puis, ça l'agaçait quand le monde disait qu'elle était fine, mais c'était une vraie soie. Puis là, depuis 4-5 ans, elle a fait une thérapie, puis tout ça. Puis là, ça fume plus, puis tout ça. Puis elle est plus raide. Elle est plus carrée dans ses relations. Tout ça. Puis, ça me blessait pas. Mais ça me disait, ah, regarde, non, ça fait 30, 20 ans que je connais cette personne-là. Puis là, elle change, tu sais. Fait que ça ne me blesse pas, Mais je suis toujours un petit peu surpris. Puis là, elle téléphone. Puis là, j'espère que je ne t'ai pas blessé en faisant de l'affaire. Ben non, tu ne m'as pas blessé. T'sais, je sais que notre relation, on s'aime beaucoup, puis qu'on est capable de passer par-dessus ça, puis je te vois évoluer. Je sais que c'est comme ça. Tu ne m'as pas blessé. Fais-toi-en pas. Le jour où tu me blesseras, je vais t'appeler pour te le dire. T'sais? Ça aussi, c'est beaucoup. C'est dans le respect des traditions. J'appelle, je dis mes affaires moi-même à l'autre. Sans la peur d'être rejetée. Sans la peur qu'elle me dise qu'elle ne m'aime plus. Sans la peur de me sentir coupable. T'sais? Mais toujours en disant, est-ce que mon comportement est dicté par ma peur? C'est rare qu'un comportement dicté par la peur, à moins une question de survie, là. T'sais, à moins que je suis au bord du précipice, puis t'sais. Mais en général, là, le comportement dicté par la peur, moi, ça ne m'a pas servi beaucoup dans ma vie. Le comportement dicté par mes souffrances du passé, mes réactions de souffrance en controverse, ça ne m'a pas aidé non plus. T'sais. C'est comme, je suis beaucoup plus à l'écoute de ma petite voix qui dit, « Ah, regardons ça. Hein? Peut-être que je devrais faire ça. » Puis là, je demande à la puissance supérieure de dire, « Ben, est-ce que je devrais faire ça? Je ne suis pas sûr. Donne-moi donc un indice, donne-moi donc un autre signe pour voir si c'est vraiment ça que je dois faire. » Et souvent, les nouveaux nous demandent, « Oui, mais ce signe-là, là, comment je fais pour le savoir? » Longtemps, je me suis posé la question. Puis naturellement, ça vient. Des fois, c'est simplement une personne qui me pose une question ou qui me fait une réflexion ou un mot que j'entends d'un partage puis qui dit « Ah! Je l'ai. Je l'ai, ma solution. » Des fois, c'est quand me levant le matin, je suis sûr que j'ai l'intuition divine, comme je l'appelle, puis que c'est ça que je dois faire. Ça, là, ça m'amène à une seule autorité ultime qui gère mes relations. Et le bien-être commun. La seule condition pour être membre des OA est le désir d'arrêter de manger compulsivement. Dans ma vie de tous les jours, pour moi, là, c'est que j'ai besoin d'arrêter de manger compulsivement, j'ai besoin d'être abstinent. Moi, j'ai souvent des problèmes d'abstinence non continue, t'sais? Mais j'ai des grandes périodes d'abstinence, t'sais? Puis à ce moment-là, des petits écarts, mais quand j'ai ça, ça m'empêche de manger. Je ne peux pas être dans la controverse. Je ne veux pas être dans le conflit. Moi, j'ai besoin de relations harmonieuses. Puis les traditions m'aident à avoir des relations harmonieuses. C'est essentiel, c'est sine qua non de ma vie pour dire que j'ai besoin de garder ces relations-là. Parce que tout le monde le sait, quand on est outre-mangeur compulsif, on est souvent dans la solitude. Dans l'isolement. Moi, j'ai besoin d'être en relation avec les autres. Puis à ce moment-là, j'ai besoin de vivre des relations harmonieuses. Puis si je suis dans la compulsion alimentaire, je ne suis pas dans la relation harmonieuse. T'sais. Parce que là, je vais m'isoler. Heureusement que ça ne dure pas. Ça peut arriver une heure ou deux. Puis après ça, j'en ai pour des jours, être correct. Mais le lendemain matin, ça reprend de plus belle. Puis je suis en relation avec les autres. Un groupe OA ne doit jamais endosser la sixième tradition ou financer un organisme apparenté ou étranger, ni lui prêter le nom de OA de peur que des soucis d'argent, de propriété ou de prestige ne nous distraient de l'objectif premier. Pour commencer, moi, ce qui était bien clair dans ma vie de tous les jours, c'est des sujets litigieux. Par exemple, quand mon chum me parle de religion, tu sais, quand il me parle du voile, quand il me parle de la burqa, parce que mon chum est un vrai musulman pur et laine, on peut dire pas le pur et dur. Pur et laine, c'était le sens québécois, là. Excusez-moi de l'expression. Je peux pas parler. Je sais que dans mon couple, pour garder l'harmonie, je ne dois pas parler des sujets touchés. Ça donne rien. On est dans des opinions différentes, que ce soit politique ou religion. Je sais, donc, combien de fois vous avez vu dans vos relations familiales ou dans vos relations avec vos amis, si on commence à parler de politique, puis qu'on commence à parler de religion, on finit plus. T'sais? C'est souvent un sujet de discorde. T'sais? Mais moi, je ne l'aborde pas. C'est pour ça, dans le même sens que disait, un organisme apparenté ou étranger vient nous distraire. Moi, mon but premier dans mes relations, c'est de garder des relations harmonieuses, saines et vitalisantes. T'sais? Puis ça, c'est avec les traditions que je peux le faire. T'sais? Les soucis d'argent, de propriété ou de prestige. Quand je veux péter plus haut que le trou, t'sais? Puis que je veux me montrer meilleur que mon ami X ou mon ami Y, ou que mon frère ou que ma sœur, hein? Qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne pas grand-chose parce qu'ils sont en maudit. Puis après ça, il faut que je rétablisse les ponts, tout ça. Donc, le prestige dans mes relations avec les autres, ça m'avance à rien. Des soucis d'argent, je me dis, et ou de propriété. J'ai été longtemps dans ma vie que ma priorité, c'était de faire carrière, puis démontrer au monde entier comment j'étais bon pour gagner l'estime de moi. Mais ça met le focus, sur quelque chose qui est bien secondaire, puis qui vient tout teinter toutes tes relations. Moi, depuis que je fais le mouvement, les gens me disent, t'as changé. J'ai des amis, moi, j'ai beaucoup d'amis qui étaient de mes anciens employés. Puis ils disaient, à partir du moment où on s'est connus, puis qu'on a commencé notre amitié, puis 15 ans plus tard, c'est deux mondes. Parce que j'essaie de vraiment d'être à l'écoute, de respecter ce qu'ils ont, de regarder, d'arrêter de me sentir visé, oh, c'est parce qu'elle n'a pas m'aimé. Ou bien c'est parce qu'elle est trop intransigeante. T'sais? Ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est que souvent, mes filleuls, par exemple, ou un membre me téléphone, puis il me dit, ah, une telle m'a fait telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. T'sais? Puis là, ils prennent ça personnel. Moi, la même personne va me faire, une autre personne va me faire les mêmes choses. Puis je me dis, c'est son affaire à elle, c'est ce qu'elle vit. Et dans ses souffrances. T'sais? Et moi, ce que je dis souvent, c'est, oh, elle est pas mal plus souffrante que moi pour le moment ou pour aujourd'hui, elle, là. T'sais? Et je suis plutôt dans l'accueil, dans l'amour inconditionnel. Évidemment, toujours dans une certaine mesure. Si elle m'envoie promener, si elle manque de respect, si elle me bouscule, physiquement, tout ça, il y a une autre paire de manches, là, t'sais? Mais être dans la compréhension de l'autre, de voir que l'autre est plus dans ses souffrances, hein? C'est bien autre chose. La septième tradition nous dit tout groupe ou autre doit subvenir entièrement à leurs besoins et refuser les contributions de l'extérieur. J'ai été longtemps, longtemps, moi. Je me suis séparé, ça m'a coûté une chemise, ça m'a pris 10 ans à revenir au même niveau de vie que j'étais avant. T'sais? Et j'ai toujours été dans les dettes. Dans les dettes, dans les dettes, dans les dettes. T'sais, t'sais. Puis à partir du moment où j'ai décidé de partir à mon compte puis de quitter un emploi bien rémunéré, tout ça, avec un simple montant forfaitaire, je me suis dit, oh, là, je peux plus être dans les dettes, là, t'sais. Je dois subvenir entièrement à mes besoins. Et ça, c'était. Vous n'avez pas d'idée quel soulagement de ne pas avoir de dettes, de vivre en fonction de tes moyens. Ça doit faire bientôt 20 ans, presque 18 ans que je connais ça, là, t'sais. Et quelle belle grâce que je vis là-dedans. De dire, je dépense, tu sais. Moi, j'utilise ma carte de crédit tout le temps. T'sais. Mais la carte de crédit, elle se paye automatiquement dans mon compte à la fin du mois. T'sais. Puis si je sais que je n'aurai pas l'argent à la fin du mois dans mon compte, je ne le dépense pas. Alors, je ne parle pas d'une auto, une maison, des choses comme ça, là, mais toute la balance, et c'est quel soulagement. Quel soulagement de ne pas se sentir, de dire, ouf, j'ai encore 450 pièces ou 500 pièces de paiement qui rentrent à la fin du mois. Puis là, d'aller dépenser, dépenser, dépenser. T'sais. ça m'a amené cette certaine tradition-là, moi, la simplicité volontaire. C'est-tu bien utile? C'est-tu bien important pour moi? D'acheter telle affaire ou d'acheter telle bébelle. Ça m'a amené dans le concret à dire des échanges de cadeaux dans le temps des fêtes, là. Ça veux-tu, on va arrêter ça. T'sais? On met 30 pièces, on met 50 pièces, on a une bébelle qu'on met nulle part et qu'on n'utilise jamais. Qu'est-ce que ça donne? T'sais? Mais là, on avait des jeunes, nous autres, j'ai trois nièces, tout ça, puis ça fait que c'était bien difficile d'arrêter ça. Fait qu'on a dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des affaires qui sont fonctionnelles chez nous, mais qu'on ne veut plus. T'sais? Puis on va emballer ça, puis là, on va piger ça. T'sais? Fait que ça a fait 4-5 ans, mais à un moment donné, les gens se sont tannés, puis là, ils ne faisaient plus. Fait que là, j'ai dit, OK, on arrête. Mais ça m'a amené beaucoup plus dans la simplicité volontaire en disant, j'ai-tu besoin vraiment de ça? Puis de réaliser que non, mon bonheur, c'est dans les relations enrichissantes avec les autres que je trouve, c'est dans la paix, puis dans la sérénité, plutôt que dans l'obsession. On dit contribution, subvenir entièrement à ses besoins. Il y a quelqu'un qui a dit ça tantôt aussi. C'est pas juste sur le plan financier, hein? Dans ma relation, si quelqu'un a besoin d'aide, une amie, un parent, un frère, une sœur, c'est de l'aider systématiquement, de dire oui, je vais aller t'aider. Oui, je vais aller t'aider à faire ça. Ça, je suis un petit peu moins bon. Tiens, 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 tiens. Je suis un petit peu moins bon, il faudrait que j'ai une mobilité plus réduite, là. Mais c'est comme ça me reste. Il reste encore du chemin à parcourir un peu là-dessus. Là, t'sais. Ah, je suis capable d'écouter. M'a t'appelé, tu vas. Moi, j'ai des amis qui sont malades. Je suis celui qui va faire des suivis de dossier. Il y a quelque chose qui arrive d'important dans ta vie. Bingo, tu es sûr qu'une semaine, 2 semaines après, je vais te téléphoner et me dire, puis comment ça va là, sur ça, là? T'as-tu réalisé ce que tu voulais? Tout ça, t'sais. Ça, je suis bien bon. Mais de là à l'aider, c'est comme systématique. T'sais. Moi, j'ai toujours. Beaucoup envié. Quand on parle des alcooliques anonymes ou en disant, mais allez te chercher pour aller à un meeting. Moi, j'ai toujours dit, waouh, quelle générosité, quel service, en tant que tel. Par contre, moi aussi, je suis capable, je rends des services, t'sais. Et j'ai dans mon plan d'action que je fais à chaque jour, que j'essaie de réaliser à chaque jour, j'ai la notion de service, puis il y a une partie que j'évalue à chaque fois en disant, j'ai-tu rendu service? Combien de services que j'ai rendus hier à quelqu'un? On parle, dans une des traditions, on parle de l'attrait plutôt que la réclame. Moi, de mon premier mariage, j'ai eu une fille. Elle a maintenant 37 ans. Comme sa mère et son père, ma fille souffre d'obésité. Elle, c'est pas d'obésité morbide, mais c'est l'héritage que je lui ai donné. C'est tentant, maudit, de dire, viens donc à Oua. Je l'ai amenée une fois, quand elle était jeune, elle avait 17-18 ans. J'y parle, oui, je vais à ma réunion. Où j'y parle brièvement de ce que je fais, tout ça, mais ça donne rien de faire la réclame. J'essaie juste de développer de l'attrait. Être encore dans un régime par-dessus la tête, puis dans l'exercice physique, puis tout ça. Puis ça fonctionne plus ou moins bien. Mais dans une des étapes, on dit à l'heure opportune de Dieu. Moi, j'ai juste à travailler sur moi pour être un attrait, puis de voir elle-même comment j'ai changé, puis comment je suis plus ouvert, puis à l'heure opportune de Dieu, ça se fera. On parle d'anonymat. Moi, c'est un peu particulier dans le sens que quand, et jamais, mais jamais j'aurais pensé dire ça un jour, quand je dis quelque chose à quelqu'un, n'importe qui peut l'entendre, hein, et ça ne me dérange pas. Il peut me revenir avec, puis je dirais pas, « Ah, oh, comment ça, t'as-tu ça, ta-ta-ta-ta, puis tout ça. » Ça ne me dérange pas. Mais je peux comprendre, par exemple, j'ai vécu combien de fois de problèmes avec l'animal dans mes relations avec les autres. Hein? Parce que j'ai été ouvrant ma grande gueule, tu sais, hein? Parce qu'effectivement, je n'ai pas fait attention à ce que l'autre m'a dit, puis je l'ai répété. Pas pour chialer, juste pour que l'autre puisse démontrer de la compassion par rapport à ce que l'autre vivait. Hein? Mais ça a froissé beaucoup de monde. Hein? L'anonymat, c'est essentiel. Garder confidentiel. Hein? Hein? Souvent, j'ai des amis, plus maintenant, là, mais dans les premiers temps, peut-être 5 ans après que je faisais le mouvement, je parlais que je vivais telle chose, puis telle personne avait vécu telle chose, ça. Elle disait, ah oui, puis là, on commençait à poser des questions sur la personne. T'sais. Mais je disais, tu la connais pas. Qu'est-ce que ça donne? Puis même si tu la connaissais, qu'est-ce que ça te donne? Je t'ai juste donné ça comme exemple que cette personne-là avait vécu telle chose. Tu n'as pas besoin de savoir c'est qui. Qu'est-ce que ça va te donner de savoir c'est qui? Pour pouvoir placoter compte, pour pouvoir faire des médisances, comme on dit. C'est pas utile. Et ça, c'est comme fort intéressant de dire, ça aussi, ça garde des relations interpersonnelles plus solides, plus vraies, plus authentiques. On dit dans la 12e tradition, l'anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions et nous rappelle sans cesse de placer des principes au-dessus des personnalités. Souvent, pour moi, c'est l'anonymat, mais les principes au-dessus des personnalités, ça m'aide beaucoup, moi, à accepter les autres dans leurs différences, dans des personnalités différentes. Et mon Dieu, qu'elle était bien bête. Hey, as-tu vu, elle s'est emportée. Mais oui, mais elle doit de ne pas être parfaite. Moi non plus, je ne suis pas parfait. J'ai essayé longtemps d'être parfait. Puis ça n'a jamais marché. Fait que j'ai lâché la serviette puis dit, oui, je suis un simple être humain. Puis l'autre est un simple être humain. Et quand je regarde les principes dans les relations en disant, ce personnel m'apporte ça, m'apporte ça, m'apporte ça, c'est vrai qu'elle était bête comme ses pieds. Ça m'a-tu choqué? Pas vraiment. Si ça m'a froissé et j'ai été vraiment piqué au vif, ben je vais faire plutôt un examen de conscience en disant, oh, qu'est-ce que ça vient toucher à moi, là? Elle vient toucher une vieille blessure, peut-être? Ben c'est mon examen de conscience à moi, hein? Elle n'a pas voulu me blesser, elle, là. T'sais? Elle s'est juste exprimée dans sa personnalité outrageuse, whatever, tu sais. Donc, à ce moment-là, j'ai juste à faire ma prise de conscience. Puis si ça m'a vraiment blessé, puis je me suis senti... à ce moment-là, j'avais juste à peine de lui dire que j'ai été blessé. Mais très souvent, j'ai pas besoin de revenir. Parce que je réalise que c'est moi qui, dans mon ego, dans mon orgueil, ou dans mes blessures, je me suis laissé atteindre en disant « ça n'a rien à voir avec la personne ». Quand on applique nos traditions dans nos relations avec les autres, c'est tellement plus facile. C'est tellement encore plus, je vais répéter, plus harmonieux. Je suis tellement plus dans l'écoute et l'acceptation de l'autre. L'acceptation de l'autre dans ses différences. Parce que si la relation... J'ai déjà eu 3 relations d'amitié assez grandes, profondes, où les gens m'ont laissé tomber. Là, je me suis dit, oh, comment ça se fait qu'ils m'ont laissé tomber? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de s'entendre? Ben, j'ai réalisé que dans une des relations, entre autres, je voulais beaucoup, la relation était beaucoup parce que j'aimais beaucoup cette personne-là, puis j'aimais être en sa présence. Fait que je disais toujours oui à ce que la personne me proposait. Puis à un moment donné, je me suis dit non, ça suffit, là. C'est comme je vais me respecter là-dedans. Puis j'ai commencé à dire non. Puis là, oups, on n'a pas réussi à trouver de bien-être commun, de solution, tu sais, commune. Tu sais. Et c'est ça qui a mis fin à la relation. Tu sais. Puis en disant, bien, c'est ça, c'est comme... Il y a un proverbe que j'ai déjà entendu qui dit, tu sais, le train passe, là, il fait son chemin, puis tout ça, puis à chaque station, il y a des gens qui embarquent, puis il y a des gens qui débarquent, hein? Puis il y a des gens qui sont là pour me faire cheminer de telle façon, puis il y a des gens qui restent longtemps, puis il y a des gens qui sont juste de passage. Mais ça aussi, c'est l'acceptation. Avant, je me suis dit, oh, que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis qu'est-ce que j'ai fait? Comment je pourrais reprendre cette relation-là? Qu'est-ce que je devrais faire pour le faire à tout prix? Puis là, tu dis non. J'ai essayé, j'ai fait tous les efforts raisonnables et la relation s'est terminée. C'est correct. C'est ça la vie. Hein? Ma puissance supérieure, c'est beaucoup plus que moi. Ce dont j'ai réellement besoin. Et ça, ça guide. On parlait d'autorité ultime tantôt, l'autorité ultime dans mes relations, mais l'autorité ultime aussi dans ma vie. Elle sait beaucoup mieux que moi ce dont j'ai besoin. Parce que moi, je suis souvent dicté par mon ego, par mon orgueil, je suis souvent dicté par avoir raison ou par mes souffrances, surtout par mes souffrances. Et puis, quand j'écoute, je dis non, tu sais, il y a quelqu'un qui disait, demande à ta puissance supérieure telle chose ou telle chose, tu sais. Puis je disais, ben, OK. Puis la personne disait, si au bout d'une semaine ou deux semaines maximum, tu ne l'as pas eu, hein, ben, soit que c'est pas bon pour toi pour le moment, soit que c'est bon à un autre moment, hein, ou soit que c'est pas ça, pas en tout, que tu as besoin. Puis, moi, j'ai appris longuement que de faire confiance à ma puissance supérieure, puis qu'elle mettait sur ma route des personnes, des événements, des situations qui me permettraient, des circonstances qui me permettraient de réaliser ce dont j'ai besoin. Hein? J'ai eu souvent dans ma vie des choses que j'ai voulu, que j'ai pas eu. Puis que j'ai dit merci mon Dieu au bout d'un an en disant oh, une chance que j'ai pas eu ça. Comment je serais mal pris avec ça? Et ça, c'est ça pour moi l'autorité ultime d'une puissance supérieure qui me permet de guider. C'est comme pour ceux qui sont pas croyants ou agnostiques, je dirais c'est comme le roc d'être, le ce qui est en intérieur de nous, puis qui est le plus solide, puis qui est le meilleur de l'être humain qui se retrouve là. Mais avec nos expériences, nos enfances, nos souffrances, bien, c'était entaché, ça, c'était abrié de toute cette façon. Puis c'est juste de redécouvrir ça à sa plus, j'appelle ça un noyau saint ou une puissance divine, appelez-le comme vous voulez, mais c'est juste de recontacter ça pour que vous puissiez savoir c'est quoi hein, qui vous rend heureux, en paix et en sérénité. Et c'est la grâce que je vous souhaite. Merci.